Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, je vous propose de vous exposer un sujet qui est méconnu, sauf des spécialistes, dont je ne suis pas, mais je m'intéresse à Emmanuel Todd depuis quelques années. Je l'ai découvert il y a quelques années, bien que ça fasse plus de 40 ans qu'il effectue des travaux de sociologie historique, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Hein. Donc, ça m'a paru intéressant de restituer l'essentiel de ses thèses, qui sont les siennes bien sûr, mais qui sont dans une filiation qui date du milieu du 19e siècle. Donc, on y va. Alors, cette filiation, là, je l'ai résumée vraiment d'une façon hyper schématique. Le premier qui a inventé ce système d'analyse, c'est un gars qui s'appelait Frédéric Le Play. C'est un polytechnicien français du milieu du 19e siècle et qui a fait sa carrière dans les travaux publics. Mais il s'est intéressé un petit peu à ce qu'il voyait autour de lui et il a élaboré les premières idées de segmentation sur les systèmes familiaux. Je vais vous le détailler très longuement après. Je fais juste une allusion à un vocable qu'il a utilisé, c'est le vocable instable. Donc, c'est le type de famille qui est le plus répandu en France, qui, pour faire court, est le grand bassin parisien très élargi et qui est le modèle nucléaire égalitaire. Je vais vous expliquer tout ça bien plus dans le détail dans la suite de l'exposé. Et pour lui, c'était affreux parce que c'était une famille qui disait instable. Lui, il était pour la famille, ce qu'on appelle la famille souche, c'est-à-dire où il y a transmission du patrimoine par l'aîné, le droit d'aîné, si vous voulez. Hein. Bon, il a une école, il a des descendants, disons, intellectuels, c'est ceux qui sont mentionnés ici, et ils n'avaient pas bonne presse dans le milieu universitaire, tout simplement parce qu'ils sont devenus très réac, Le Play l'était déjà, mais encore plus que Le Play, ses descendants. Et en plus, ils ont fricoté avec le maréchal Pétain. C'est mauvais tout ça, tout ce qu'ils racontent, c'est forcément des bêtises. Et tout ça, c'est un peu en France, cette école française s'est délitée, elle s'est évaporée, et ça a été repris par un Anglais, une fois de plus, qui s'appelle Peter Laslett. J'en parlerai plusieurs fois dans ma conférence. Peter Laslett, c'est le maître de Emmanuel Todd quand il était à Cambridge. Et donc c'est lui qui lui a donné le virus d'étudier ces choses-là. Et donc Emmanuel Todd a repris les études dans cette idée-là, disons dans son travail en France. Emmanuel Todd, le voilà. Donc il ressemble toujours à ça. J'ai essayé de prendre une photo qui est la plus récente, c'est-à-dire où il a un peu de cheveux blancs. J'ai eu du mal à la trouver. C'est celle qui est en dessous. Il n'a pas tellement changé physiquement. Il est toujours aussi désagréable au niveau de son discours, parce qu'il est assez... de toute façon, j'ai raison, et fermez-la, parce que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous n'avez rien compris. Quoi. Donc il est assez directif. Bon, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, ce gars-là? Il est quand même d'une bonne famille. Vous voyez un peu son ascendance. Hein, Olivier Todd, c'est un gars qui était journaliste, qui était journaliste à l'Express. C'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose. Et Dan-Marie Nizan, c'est aussi quelque chose qui vous dit. Nizan, c'était le troisième de la triade infernale des normales sup, Sartre, Aaron et Nizan. Voilà. Et donc, Aaron, ce n'était pas un homme de gauche, mais enfin, les deux autres, c'était quand même des hommes de gauche. Et c'est un petit cousin de Claude Lévi-Strauss, donc On est dans le beau linge, dans le beau monde. Voilà. Très intellectuel, etc. Donc il est bien sûr d'origine juive, anglaise et bretonne. Ses études, ben, Sciences Po, études d'histoire, fondamentalement c'est un historien, et il a fait sa thèse à Cambridge, sous la houlette de Peter Laslett que j'ai déjà évoqué. Et donc un héritier de Frédéric Leplay. Alors, donc il a repris en l'affinant les classifications antérieures et que je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible. Pour définir des types familiaux, il a utilisé deux critères croisés qui sont d'une part le fait que plusieurs générations cohabitent sous le même toit, c'est-à-dire les parents, les enfants et les grands-parents, physiquement, une cohabitation physique, et les règles d'héritage. C'est-à-dire, est-ce que l'héritage est égalitaire ou l'héritage est inégalitaire ? On a l'air de trouver ça rigolo aujourd'hui. Je rappelle quand même que dans la législation française, merci Monsieur Napoléon, une fois de plus, c'est encore lui qui a fait ça, quand on a fait le Code civil, il y avait un problème avec les règles d'héritage. Donc la sensibilité majoritaire était l'égalitarisme dans l'héritage, mais il y avait une tradition aussi de primogéniture et de droit d'aînesse. Alors comment concilier les deux qui sont complètement contradictoires ? Ben, on a créé la réserve testamentaire. Vous savez qu'aujourd'hui dans les testaments, vous devez avoir, alors je n'ai plus la proportion, c'est deux tiers ou trois quarts, je ne me souviens plus, qui sont égalitaires, et le reste, c'est à disposition de celui qui fait son testament. Et donc, c'est un mélange des deux traditions qui sont dans le Code civil. Alors, ce n'est pas Napoléon, je ne sais pas si c'est lui qui a inventé ça, mais enfin, disons, c'est sous sa houlette. Quand on écrit le Code civil, et sur ces règles d'héritage, ben, on vit toujours, en 2019, sur des règles qui ont été faites en 1801. Voilà. Et qui n'ont pas été changés. Alors, dans les années 80, donc la première, si vous croisez deux critères, ça fait quatre cases dans un carré, et donc vous avez quatre types de familles. Et il leur a donné un nom, qui sont les suivants, famille nucléaire absolue, famille nucléaire égalitaire, famille souche autoritaire, famille communautaire. Bon, j'y reviendrai. Hein. Voilà. Et donc, au niveau des valeurs, vous regardez les flèches, égalité, inégalité, liberté, autorité. Je vous laisse le temps d'assimiler ce petit graphique qui est bien fait, à mon avis. C'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Ok. Alors, évidemment, quand un chercheur va de plus en plus profond, il dit « Ah ben oui, mais ça, ce truc à quatre cases, c'est un peu trop simpliste, donc je vais complexifier la chose. » Donc, vous aurez ça sur le site. Hein. Il y a des variantes de ces différentes familles qui méritent des exégèses, mais enfin, ce n'est pas l'objectif de cette... exposé de rentrer dans ce détail-là. Donc vous voyez, là, il en a trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Alors, ça, regardez bien ce tableau-là, je crois qu'il résume un petit peu ce que je veux vous faire passer comme message. Donc, vous voyez famille communautaire, famille souche, donc sur les lignes, c'est les types de familles, et vous avez les valeurs qui sont dans les colonnes. La liberté, l'autorité, l'égalité, l'inégalité. OK ? Donc, ça va un peu de soi, mais ça va mieux en le disant. Par exemple, la famille communautaire, l'enfant doit être intégré au groupe familial. Donc, on est dans le cocon familial. Les enfants sont considérés comme égaux par les parents Donc il n'y a pas de discrimination entre les enfants. Ok ? Et donc, dans, alors ça c'est l'élément nouveau que je vais apporter, c'est qu'on a découvert que, enfin c'est Todd qui l'a découvert d'une façon tout à fait démonstrative, que ce type de famille était majoritaire dans telle ou telle zone géographique de la France, de l'Europe ou du monde. C'est-à-dire c'est lié à un lieu. Alors c'est évidemment un résultat statistique. On ne peut pas dire que dans telle région, on n'est que des familles égalitaires ou des familles communautaires, mais dans telle région, il y a plus de familles communautaires. C'est le type de famille qui est majoritaire. En France, il n'y a qu'une région qui, je vous montrerai des cartes ensuite, qui est dans ce cas-là, c'est la région, ce qu'on appelle la banane, c'est-à-dire qui va du Limousin à l'Allier. Je vous les montrerai sur des cartes. La famille souche, l'enfant doit être intégré au groupe familial, c'est la même chose que l'autorité, mais les enfants sont considérés comme inégaux par les parents. Et en général, c'est l'aîné qui a le droit et le devoir de reprendre le patrimoine familial qui, en général, jusqu'à une période récente, était la ferme. C'est pour éviter la division des patrimoines. Dans les deux, alors dans cette région-là, ce type de famille, c'est essentiellement dans le sud-ouest, en France. On verra la répartition dans l'ensemble de l'Europe et dans le monde même. Ensuite, famille nucléaire égalitaire, l'enfant est rapidement émancipé du type familial, c'est-à-dire dès qu'il arrive à l'âge adulte, tu te barres, c'est plus mon problème, et c'est pas pour ça qu'il a de mauvaises relations avec ses parents, mais il déménage physiquement de la maison. Et du côté de l'égalité, eh bien, il y a égalité entre tous les enfants. Et ça, c'est vraiment très fort dans la famille nucléaire égalitaire, qui est, en France, la zone de population qui fait à peu près 40% de la population française, qui est le grand bassin parisien très élargi. Et la famille nucléaire absolue, l'enfant est rapidement émancipé du groupe familial, les parents sont indifférents à l'égalité, donc une fois que les enfants sont partis, vous débrouillez, je ne fais même aucune distinction particulière dans les règles d'héritage. Et ça, pour l'essentiel, alors en France, ça n'existe pas, ou vraiment d'une façon très marginale, on va dire, dans les Deux-Sèvres, dans le, vous voyez, la région de... Pas dans les Deux-Sèvres, le Calvados, des zones qui sont près des îles britanniques, mais ça, c'est typique du monde anglo-saxon. Le monde anglo-saxon, c'est une, ethniquement, c'est une famille nucléaire absolue. C'est pour ça qu'on a tant de mal à les comprendre en tant que Français, c'est que le ressort profond de modes de réaction sont différents des nôtres. Voilà, c'est comme ça. Mais d'une certaine façon, il faut un peu l'accepter. Voilà. Alors, indicateur objectif. Bon, je vous l'ai déjà dit, ça. Donc, c'est le résumé de ma planche précédente. Et voilà. Donc voilà le premier plan que Emmanuel Todd a proposé. Donc, vous voyez ce que j'appelle la banane, c'est ça. Et donc, le grand bassin parisien, ben, vous le voyez, c'est ce qui est bleu. Et donc, les gens qui ont les mêmes sensibilités, on va dire familial que nous, au sens français, ben, il n'y en a pas tant que ça. Il y a la Pologne, l'Espagne, la Roumanie, le Piémont et le bas de la botte. C'est tout. C'est tout. Donc la sensibilité française est ultra minoritaire en Europe. Je rappelle, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de leur dire, Emmanuel Todd est contre l'Europe, pour les raisons que j'évoque ici. C'est-à-dire, il dit, ethnologiquement, ça ne marchera jamais. Alors, soit on dit ça ne marchera jamais, puis on fait que ça ne marche pas, soit on est conscient qu'il y a un problème pour que ça marche, et on fait les meilleurs efforts pour que ça marche. Et on voit qu'il y a deux grandes autres tâches, famille autoritaire, famille souche, l'Allemagne, le monde germanique, le sud-ouest et le nord de l'Espagne, le bas de la Norvège et de la Suède, c'est tout. En famille souche, il y a aussi ça. Voilà, l'Écosse et l'Irlande. Ça, c'est la carte de 85. Hein. Et vous voyez qu'il y a, de loin numériquement, quelle est la famille la plus représentée ? C'est la famille communautaire, qui, pour faire court, est la Russie, Russie-Ukraine, et les pays qui, à un moment ou à un autre de l'histoire, ont été sous la coupe des Ottomans. OK ? Les Ottomans se sont arrêtés là, juste à la porte de Vienne. OK ? Alors voilà la même carte faite 2017, donc c'est quasiment 30 ans après. Hein, donc où c'est plus sophistiqué. Donc globalement, il n'y a pas de changement énorme, mais il y a quand même quelques petites variantes, et en particulier la Pologne qui était dans la même couleur que la France est devenue jaune. Alors ça veut dire nucléaire co-résidence bilocale. Ça veut dire que les gens habitent quand même avec leurs enfants. Donc les valeurs d'égalité entre les enfants sont fortes, mais les enfants restent. Etc, etc. Bon, je ne veux pas épiloguer là-dessus, j'avance. Et voilà une carte mondiale. Et vous ne serez pas surpris, à nouveau, le rouge domine largement. Les pays anglo-saxons, ben, ils sont anglo-saxons, et l'Angleterre, et ils sont tous, sans aucune exception, dans le même type familial. Donc la culture anglo-saxonne, elle est anglo-saxonne, et elle n'existe nulle part dans aucun autre pays du monde. OK ? Numériquement, les anglo-saxons, actuellement, ne représentent que 5% de la population mondiale. Mais ils ont un mode de... Ils ont le soft power dominant et les Américains montrent le là. Voilà. Bon. Voilà une carte. Alors, on va parler un petit peu de... On va revenir sur la France. Je ne vais pas faire des... Donc c'est la carte la plus récente qui est la plus sophistiquée. Et vous voyez les choses qui sont le plus proche possible du modèle anglo-saxon, c'est ce coin-là, si vous voulez. Ce n'est pas complètement incompréhensible. Et surtout, on va regarder la Saône-et-Loire. Évidemment, il a pris volontairement les limites départementales, donc c'est un peu artificiel, il faut bien faire quelque chose. Alors, je peux vous dire que là, en Saône-et-Loire, eh bien, la frontière ethnologique, elle est là. Elle passe à Monceau, je vais même dire au rond-point Jeanne-Rose, hein, je vais être précis. Donc tout le Charolais est dans cette famille-là, il est communautaire. Le Morvan, c'est une race à part, donc j'en parle même pas. Et surtout, zut. La zone chalonnaise, la vallée de la Saône et la Bresse et tout ce qui va derrière, c'est le grand bassin parisien, famille égalitaire. Donc, si on voulait faire un découpage un peu plus fin en Saône-et-Loire, on le ferait comme ça. Alors, pourquoi Emmanuel Todd s'est intéressé à ce truc-là ? En dehors du fait qu'il ait eu son prof de thèse qui s'appelait Peter Laslett, qui lui a parlé de ça, Mais ça a déclenché chez lui toute une réflexion. Pardon. Toute une réflexion. Et lui, il est d'une famille qui est quand même de gauche. Et il a lu Marx, comme tous les gens de son milieu. Il l'a lu, c'est-à-dire il n'en parle pas comme ça, il l'a lu, il connaît son œuvre. Et Marx dit une chose, le nombre de conneries qu'il a dit, c'est incommensurable, mais enfin, il en a dit une bonne, c'est celle-là. La révolution s'établira dans les pays où la classe ouvrière est majoritaire, est puissante et tout et tout. Au XIXe siècle, je rappelle Marx, c'est le milieu du XIXe siècle, le pays où la classe ouvrière est la plus puissante, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, il est arrivé juste à 50% de la population d'ouvriers. Et après, ça a redescendu, mais enfin, ça a atteint un pic comme ça. Et donc, il dit, ben, je vais regarder le communisme, les régimes communistes. Est-ce que les régimes communistes sont apparus dans les zones où il y avait une classe ouvrière extrêmement puissante? Alors, il a fait le petit exercice suivant. Donc là, il y a le poids de la classe ouvrière et les votes, puisque finalement c'est difficile de. On a mis que les pays. On n'a pas mis la Russie, là. Il n'y avait pas de démocratie. Donc les votes dans les pays différents. Donc il a fait la corrélation, c'est de la mathématique, hein, et donc la corrélation est négative. Il n'y a non seulement aucune. Mais disons, c'est dans les pays où la classe ouvrière est la plus faible possible qu'on a le plus de chance d'avoir le développement d'un système communiste. C'est expérimentalement prouvé. Ah ! Il y a un truc. Ah, par contre, à l'inverse, où le communisme s'est-il développé ? Eh bien, dans des pays, sans aucune exception, avec la famille communautaire. Et dans tous les pays où il y avait d'autres systèmes familiaux, le communisme n'a pas marché. Exemple typique, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, le vote, il y a un parti communiste anglais, vous ne le savez peut-être pas, il a 0,1% des voix dans les élections. Voilà. Et donc, pourquoi ça s'est passé comme ça ? Ben, tout simplement parce que la société, elle accepte les valeurs qui sont celles de la famille. C'est-à-dire, je mets tout en commun. Et donc, le fait que le régime annonce ça, alors je vous fais grâce des horreurs du communisme, mais au niveau philosophique, il y a coïncidence entre les valeurs familiales et les valeurs du système politique tel qu'il est présenté, bien sûr. Et ça permet aussi d'expliquer, vous avez sûrement des communistes dans votre... Puis vous êtes peut-être communiste, j'en sais rien, tout le monde a le droit d'avoir toutes les opinions. Disons dans vos milieux familiaux, dans vos amis, c'est tout à fait remarquable dans les familles, on va dire communistes, qu'il y a une continuité très forte dans les opinions politiques, c'est-à-dire le père, le grand-père, le machin, et on continue à acheter l'humanité, à voter communiste, même s'il y en a de moins en moins. Alors, ce monsieur Emmanuel Todd, il a pondu beaucoup de bouquins. Alors, je rappelle qu'il a travaillé à l'INED, l'Institut National des Études Démographiques. Et il a bénéficié. Pourquoi il a eu un tel succès en dehors de ses capacité intellectuelle, il est arrivé juste au moment où du développement de l'informatique qui permettait de traiter des masses de données énormes et il était dans une structure qui savait faire ça, c'était son métier. Donc il était au bon endroit au bon moment, on va dire. Hein. Et donc ce monsieur, il a fait beaucoup de bouquins. Alors, dans la liste, vous regarderez sur Wikipédia, il y en a peut-être une trentaine, je n'ai pas compté, j'ai sélectionné uniquement ceux qui font une analyse des systèmes familiaux, parce qu'il a fait d'autres bouquins, disons qu'ils sont politico-historique où il prend une position politique en disant « je suis contre l'euro, je suis contre l'Europe, je suis contre ceci, je suis contre cela ». Il est souvent contre, à cause de tel ou tel aspect de des politiques familiales. Et donc c'est là qu'il agace certains, même moi il m'agace de temps en temps, mais enfin bon, je reconnais ce qu'il a fait. Et donc je vous recommande de le premier, La diversité du monde. Tous les bouquins que j'ai apportés, je les ai tous lus, hein. Donc je connais un peu le sujet. La diversité du monde, c'est une synthèse de ces premiers, ça date des années, milieu des années 80. Famille et modernité. Ensuite, L'invention de l'Europe. Alors ça, je le recommande parce qu'il est lisible. Parce que quelquefois, c'est des monographies qui sont un peu pesantes. Voilà. Alors, ce qui n'est pas lisible, parce que je dis je les ai tous lus, je n'ai pas tout lu celui-là, Emmanuel Todd, L'origine des systèmes familiaux, qui date des années 90, de mémoire. Hein. Et ça, c'est pays par pays, les tableaux, les machins, les bidules, les trucs. Et c'est le tome 1, et le tome 2, il est dans le tuyau, et il va le faire. Donc là, c'est l'Eurasie, si vous voulez. Et donc, il va faire l'Afrique et l'Océanie, l'Afrique et l'Amérique du Sud. Mais ça demande, il va jusqu'aux tribus amazoniennes, hein, au niveau de ses analyses. Hein. Quelle est la source de tous ces travaux? C'est des monographies qui ont été faites par des historiens qui n'étaient pas lui-même, en disant le village de Clochemerle à tel endroit, voilà le registre des mariages, le registre de ceci, voilà l'analyse des actes testamentaires, voilà, voilà, etc., etc. Mais c'est des choses très petites. Mais en agglomérant tout ça et en mettant tout ça dans un ordinateur, ben on arrive à faire des synthèses de toutes ces choses-là. Voilà. Alors, ensuite, je recommande celui-là, 2013, Le mystère français. Il a fait trois ou quatre livres sur la France, l'invention de la France. Première édition, deuxième édition, et Le mystère français, c'est un truc qu'il a fait en 2013, je vous montrerai des images à la fin de la présentation, là, et qui dit en substance « Je suis affolé parce que contrairement à l'idée que je m'en faisais personnellement, la France n'a pas changé, malgré les mouvements de population. » Le changement de mentalité, les choses comme ça, il y a une stabilité des opinions et des comportements politiques qui est absolument affolante. Alors, Todd a au moins un avantage, je le critique beaucoup, là, il dit dans chacun de ses bouquins, dans tel et tel et tel chapitre, j'ai raconté des conneries de mon bouquin précédent. Donc, je rectifie, et voilà l'idée actuelle de mes analyses. Et donc, la synthèse de ça, c'est ben, la France ne change pas, elle est immuable. Et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Il le dit lui-même. Ça m'interpelle, comme on dit. Voilà. Ça l'interpelle tellement qu'il n'arrête pas de pondre. Et d'ailleurs, alors vous allez sur YouTube, hein, des conférences de Emmanuel Todd, vous en avez des dizaines, pour ne pas dire des centaines. Donc vous le verrez. Et faites un essai, vous tapez Emmanuel Todd dans YouTube, comme ça vous avez des conférences, et c'est très intéressant, c'est vite agaçant, parce que, alors d'abord il s'interrompt sans arrêt, puis change de, bon il y a quelques conférenciers qui font comme ça à l'UTB, donc il est un peu difficile à suivre dans son raisonnement. Et donc ça, où en sommes-nous? Ben, c'est une étude ethnologique qui part pratiquement du néolithique, et en disant ben voilà comment le monde en tant que société évolue. Donc, 2017. Et à la fin, il y a un petit post-scriptum qui m'a interpellé aussi, je n'arrête pas d'être interpellé, où vraiment, il y a la description des Gilets jaunes. Il est écrit un an avant. C'est extraordinaire. Voilà. Donc, si je n'ai pas de droit d'auteur, hein, si ça vous intéresse, je vous recommande. Alors, en introduction, si vous voulez, je vous dis celui-là, Invention de l'Europe. Si vous commencez par celui-là, ça ne va pas vous tomber des mains, quoi. Hein. Donc, la synthèse, les systèmes familiaux sont restés stables géographiquement, au moins depuis la fin du Moyen-Âge. Pourquoi on peut dire ça depuis la fin du Moyen-Âge? C'est depuis qu'il y a des registres d'État qui n'étaient pas civils, mais enfin des registres ecclésiastiques qui permettent de suivre tous les paramètres. Ils sont une composante importante du comportement social, religieux, économique, politique des populations. Donc là, les aspects sociaux, religieux, économiques, je les ai évacués, ce n'est pas l'objet de mon exposé. Il est centré uniquement sur les idées politiques. Cette stabilité est même constatée en France depuis les années 70, malgré de profondes mutations subies par la société. La stabilité se retrouve dans la faible variabilité des résultats électoraux sur une longue période, sauf aux marges. C'est-à-dire que l'élément nouveau dans les 50 dernières années, c'est l'émergence aussi bien de l'extrême gauche que de l'extrême droite, au sens électoral du terme. Alors maintenant, on va passer toutes les familles, une par une, avec l'affiche de ces idées politiques. Famille nucléaire absolue. Donc c'est les anglo-saxons, il n'y en a pas en France. Donc je suis libéral, c'est-à-dire ben, vive la liberté, il n'y a qu'une seule valeur cardinale, la liberté. Et l'autre valeur cardinale, c'est la liberté. Liberté, liberté, liberté. Chérie. Rejet viscéral du totalitarisme. Tous les anglo-saxons sont vraiment, ils n'ont eu qu'une expérience qui a duré que 10 ans en Angleterre, c'est l'épisode Cromwell. Et c'était une dictature. Hein, et donc ça, ils ont dit, on a essayé une fois, plus jamais. Ok. Attrait pour le renouvellement rapide des politiques, les événements qui se passent en ce moment, vous le voyez bien sur le Brexit, c'est-à-dire le fait, continuité d'action par les mêmes politiques. Non, 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 celui-là, il ne nous plaît pas, allez, on le vire, on en met un autre à la place. syndicalisme spontané de la base vers le sommet. Alors, comment dire ça? Vous savez qu'en Angleterre, il y a le travaillisme, le parti travailliste. Et donc, le syndicalisme anglais ne s'est pas fait, disons, par les luttes ouvrières. Au premier degré. Il s'est fait par des associations de secours communs, de secours mutuels, comme ça existait aussi en France. Mais c'est ça qui a été ça. Et c'est monté pour créer des structures au niveau national. Libéralisme économique, donc pas de solidarité ou peu de solidarité, vous le savez très bien. Hein. Rejet de l'État absolu. Chacun doit se débrouiller tout seul. La liberté, la liberté, la liberté. Voilà. Indifférence à l'égalité, c'est-à-dire si vous voulez être égaux, ben très bien, c'est votre problème, mais ce n'est pas le mien. Et rejet des hiérarchies religieuses. Alors ça, c'est un truc qui ressort de l'histoire de l'Église anglicane. Donc, on ne veut pas dépendre du pape, les papistes. Et le Brexit, il a cette composante-là. Le Brexit, c'est de dire je suis inféodé à un lieu de pouvoir qui n'est pas anglais. Donc il y a ce ressort très profond qui émerge. Okay. Famille nucléaire égalitaire, c'est nous. Voilà. Enfin, c'est nous. c'est le grand bassin parisien. Enfin, c'est l'échelonnais, c'est plutôt... Libéral et égalitaire. Égalitaire, donc le mot, donc les deux valeurs cardinales, liberté, égalité, au même niveau. C'est dans la devise de la République française. Fort attachement à l'idée d'égalité, donc qui veut dire solidarité. Alors, j'ai fait un jeu de mots là. Indifférence à la différence, c'est-à-dire on est les moins racistes, racistes au sens générique du terme, de tous les peuples d'Europe. Dès qu'il y a des manifestations de racisme en France, ben, on crie au loup. C'est un bruit de fond très bas par rapport à ce qui peut se passer dans d'autres pays. Indiscipline idéologique, c'est les sans-culottes, c'est les gilets jaunes, c'est-à-dire on veut faire que ce qu'on veut, et quand ça ne va pas, eh bien, on fout tout en l'air et on met les têtes au bout des pics. Voilà. Méfiance vis-à-vis de l'État. Méfiance vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire que c'est ambigu. Famille souche autoritaire, donc le sud-ouest, donc la patrie linéaire, droit d'aînesse, transmission à l'aîné, privilégie le lignage, bon, vous avez compris pourquoi, accepte l'inégalité, puisque évidemment les enfants ne sont pas égaux, hein. Alors ça, c'était la règle chez les nobles, hein, chez tous les nobles, mais disons les nobles, quantitativement, c'était l'épaisseur du trait, quoi. Mais disons, dans l'ensemble de la société, ce n'était pas significatif. Reporte l'autorité du père sur l'État. Donc, le Sud-Ouest adore l'État et les services publics. Parce que si mon père n'est pas capable de résoudre les problèmes, l'État va réussir à les résoudre. Et ma fille aînée est enseignante à Toulouse, et elle entend... Et ça vient comme un leitmotiv, dès qu'il y a un problème, auprès de ses collègues, que fait l'État ? Que fait l'État ? Que fait l'État ? Que fait l'État ? Ça revient comme un leitmotiv. L'État doit tout résoudre. Fanatique des services publics, c'est concomitant, et aime le pouvoir fort. Donc avec des gens comme ça, on peut avoir ça. Claire ? Ça peut être le paradoxe de dire comment ça se fait que les gens qui aiment l'État doit tout faire. Ben, si ça ne marche pas, il faut que l'État soit comme ça. Ok ? Je caricature, hein, bien sûr. C'est pour faire passer le message. Et la famille communautaire privilégie l'égalité, comme n'aime pas la liberté, n'aime pas la liberté. Donc l'égalité, c'est la seule valeur cardinale. La liberté a disparu du paysage. Assume la solidarité, bien évidemment, puisque c'est l'égalité. Vote pour les communistes, s'ils existent. J'ai mis point d'exclamation. Il y en a encore, et accepte le totalitarisme. C'est le cas des pays de l'ancienne URSS. Voilà. Et contrairement à ce qu'on a dit, mais pourquoi les Russes acceptent ce régime abominable, Poutine, enfin Brejnev, machin ? Parce que ça leur convient parfaitement. D'abord, ils n'ont jamais rien connu d'autre. En passant des tsars aux tsars communistes, ça n'a pas vraiment changé. Voilà. Alors, permanence des idées politiques, ça c'est la thèse de Todd et moi elle me convainc assez, c'est un apprentissage subliminal, même s'il n'y a pas d'endoctrinement des enfants par les parents, à travers leur comportement quotidien. La génération suivante va faire pareil, sans vraiment qu'ils en aient conscience. Alors, tout ça, c'est évidemment schématique et caricatural, puisqu'il n'y a pas que ces facteurs-là qui jouent dans les opinions politiques. L'histoire de l'évolution religieuse a beaucoup d'importance Chez nous, ça, oui, si, ça, la séparation de l'Église et de l'État a été une fracture significative dans les idées politiques en France. Mais, par exemple, en Allemagne, c'est les protestants qui ont amené Hitler au pouvoir. Dans les élections qui ont précédé l'arrivée d'Hitler au pouvoir, les zones protestantes ont voté à 70% pour lui, les zones catholiques à 25%. C'est comme ça, c'est ce qu'on voit dans les statistiques. L'histoire du le niveau scolaire et universitaire, alors ça c'est la nouvelle idée qui apparaît dans l'œuvre de Todd, c'est la segmentation verticale de la société qui n'est plus basée sur la richesse ou les privilèges ou les choses comme ça, sur le niveau d'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on atteint, c'est déjà arrivé dans les pays anglo-saxons, en France, depuis une quinzaine d'années, on arrive au même statut, il y a 30% d'une classe d'âge qui ont atteint le niveau de l'enseignement supérieur. Et il dit, eh bien, il englobe dans tout ce truc-là, il a cherché un mot pour synthétiser toute cette classe, entre guillemets, il l'appelle « academia », pour dire ben, c'est les gens instruits qui savent comment ça marche et tout. Et disons, le contrat non écrit, c'est bien là qu'on le voit avec les gilets jaunes, le contrat non écrit, c'est que les gens qui savent ont une légitimité absolue pour diriger le pays. Ok ? Les gilets jaunes disent le contraire. Disent, c'est les gars qui connaissent rien, faut me demander mon avis, et ce que les gens d'Académia me proposent, eh bien, ça ne me convient pas. Il n'y a pas de proposition, mais disons, il y a des refus, si vous voulez. Donc, c'est relativement convaincant, et ça, c'est une idée nouvelle qui apparaît dans son ouvrage, là, celui-là, là, Où en sommes-nous ? Alors que jusqu'à présent, il n'avait pas évoqué cet aspect-là. Habitat groupé, dispersé, ben ça renvoie aussi aux gilets jaunes, hein, on l'a bien vu. Et cohabitation avec les vieux, totale ou temporaire. Bon. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est je vais vous passer une sélection des images que j'ai piqué dans ce bouquin-là, qui est Le mystère français, qui sont voyez, des belles images en couleur, voilà, qui donnent un certain nombre de paramètres sur l'état de la France en 2013. Voilà. Alors, ce qu'il appelle famille complexe. Donc famille complexe, c'est cohabitation de plusieurs générations sous le même toit. Jusqu'à une période récente, ça existait d'une façon importante, en particulier dans les campagnes. Maintenant, c'est difficile à le trouver, mais il en reste encore un petit peu, puisque vous voyez les pourcentages, là c'est 2%, donc c'est marginal. Mais ce qui est quand même rigolo, c'est que c'est marrant, la carte, elle a la même allure que les systèmes familiaux. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Bien que le taux des familles complexes, avec cohabitation de deux générations, bon, et c'est comme par hasard, c'est dans le sud-ouest. Famille complexe 2. Alors, c'est ceux qui s'occupent des vieux chez eux, c'est-à-dire où il n'y a que des vieux comme cohabitation. C'est rigolo, c'est exactement pareil que les systèmes familiaux. Et là, on n'est plus dans les 2%, on est dans les... ça va jusqu'à 20%. Idem, c'est la famille souche. C'est troublant. Fécondité, brouk, inversée, la famille souche, pour des raisons évidentes, n'est pas féconde. On privilégie le lignage. Ok ? Femme active en 1968. Alors, comment interpréter cette carte-là? Alors, je rappelle quand même que cette zone-là, vous dites, ouais, qu'est-ce qu'il y avait d'extraordinaire dans cette zone-là? Vous ne savez pas, ça? C'est une question. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette région-là, dans Femme active? Non? Moulinex. Moulinex. C'est dans l'Orne. Bon, alors bien sûr, dans la région parisienne et tout. Là, vous en avez, ça c'est le Jura, sa tradition industrielle. Ça c'est Rouen. Hein. Ça c'est le Limousin. Et puis le sud-ouest, ben, c'est. Alors, le sud-est, il n'y a rien. C'est le papy qui commande. Hein. Donc la femme, elle reste à la maison. Voilà. Alors la même, en 2008. Donc il y a eu manifestement une introduction massive des femmes dans le monde du travail. Alors là, ben, Moulinex a disparu. C'est le trou noir, le trou bleu plus exactement. Hein. Et là, vous avez ben, toutes les grandes métropoles voient un développement du travail des femmes, même au sud. Là. Mais c'est plus lié au phénomène urbain qu'au phénomène de famille. L'industrie en 68. Bon, ça, vous l'avez vu dans tous les journaux, ça. Donc la diagonale de l'industrie, tout ce qui est en haut à droite, c'était la France industrielle, et tout ce qui était en bas à gauche, c'était la France moins industrielle. En 2008, là, ça fait mal. Alors, c'est le secteur secondaire, hein, c'est l'industrie. C'est pas le chômage, hein, c'est uniquement l'industrie. Alors, ces cartes sont un peu trompeuses. J'en profite là pour faire un petit commentaire, parce que ça m'agace toujours en lisant les choses économiques. En France, on a classé comme industrie ce qui est dans le périmètre de l'usine. Mais dans le périmètre de l'usine, il y a le nettoyage, les techniciens de surface, comme on dit maintenant, les balayeuses, la cafétéria, tous les services un petit peu annexes, on les a mis dans les choses de service. Ce qui fait que pour une usine qui fait 500 personnes, on va déclarer uniquement peut-être que 300 personnes travaillant dans l'industrie, c'est-à-dire qui sont directement dans le processus productif. Est-ce que ça ne se fait pas dans les autres pays? Donc les comparaisons qu'on a toujours en disant l'industrie s'est volatilisée en France, c'est partiellement faux. Hein. Les artisans et commerçants en 2009. Et voilà, on retrouve la carte de la famille Souche. La petite ville, machin, donc c'est. Voilà. Les artisans et commerçants dans le Nord, ça a disparu. Les ouvriers en 2009. Ben, il y en a encore. Et quelquefois pas mal. 36%, vous voyez, en noir. C'est pas facile à voir parce que c'est. Non. Bistre. Voilà. Profession intermédiaire en 2009. Alors, ça, c'est. Il fallait que l'INSEE invente cette catégorie à la gomme. On ne sait jamais ce que c'est. Les professions intermédiaires, c'est. On va dire c'est la classe moyenne. Mais c'est les employés, on va dire, pour faire court. Mais ça inclut aussi les enseignants. Donc c'est une catégorie très hétéroclite qui n'a pas beaucoup de signification statistique, à mon avis. Hein. Vous voyez, par exemple, enfin, il y a l'effet métropole qui joue. Hein. Vous voyez Toulouse, vous voyez Bordeaux, vous voyez Nantes, Lyon, Marseille. Même la Saône-et-Loire, Châlons, émerge un petit peu, mais vous voyez Dijon. Hein. Dijon, c'est... Les employés en 2009. Bon, là, on ne peut pas en tirer des conclusions directes. Les cadres en 2009. Bon, là, ce n'est pas un scoop, c'est aussi l'effet des grandes concentrations urbaines. Les agents de l'État en 2009. Une fois de plus, démonstration de ce que je vous disais au début. Le sud-ouest, le sud-ouest, le sud-ouest. D'où viennent les fonctionnaires ? Du sud-ouest. Le sud-ouest, le sud-ouest. Au-delà du bac. Alors là, vous allez peut-être être surpris. La France qui est éduquée, elle est à un seul endroit, c'est la Bretagne. Les Bretons sont très nettement, en moyenne statistiquement, mieux éduqués au sens du niveau de diplôme, que la population française. Même le fond de la Lozère, là, aussi. Par contre, la Corse, c'est nul. Hein. C'est connu, d'ailleurs. Ils ont les plus mauvais résultats. Donc là, bon, ben, voilà. Sans diplôme, paradoxalement, c'est aussi en Bretagne qu'il y a le même phénomène. Donc vous voyez, quand on fait une cartographie d'une catégorie particulière, on dit, ben, quelle est la valeur supérieure ? Il faut aussi voir la carte de la partie inférieure, parce que ça peut être trompeur. Hein. Taux de chômage en 2008. Ok ? Ben là, vous avez la carte du Front National, du vote Front National, en particulier en bas. Le chômage des jeunes. À quel point pauvre ? Alors ça, c'est le dernier décile, c'est-à-dire les 10% les plus pauvres. Quel est le nombre de ceux qui sont en dessous du seuil de 10% des revenus ? Oui ? Voilà. Ben oui. Ça va de 16 à 30%. Alors effectivement, ce qui est un peu trompeur dans ces cartes, c'est qu'il a choisi des jeux de couleurs tels que ça accentue très fortement les contrastes. Il faut toujours relire l'échelle qui est en dessous pour remettre les valeurs en perspective. Alors, les pauvres sont là, c'est-à-dire là, quelle est la proportion, enfin, comment expliquer ça ? C'est difficile un peu à expliquer. Revenu annuel du premier décile, au-dessus duquel se trouvent les 10% de revenus les plus faibles. Et les riches parmi les riches, bon, ça c'est pas un scoop, c'est la région parisienne, où vous avez des riches qui sont dans en valeur moyenne à 48 000 euros. Alors, aussi, je veux tordre le cou un truc qu'on entend toujours, les inégalités. Contrairement à ce qu'on dit, la France est le pays le moins inégalitaire en Europe, au sens des revenus. C'est mesuré par un indice qui s'appelle l'indice de Gini, et qui fait justement ces ratios entre les plus riches et les plus pauvres. Et donc, en France, c'est le pays qui est le plus égalitaire, ce qui n'est pas complètement, avec la redistribution bien sûr, ce qui n'est pas complètement incompréhensible avec ce que je vous ai dit sur la famille nucléaire égalitaire. Le rapport interdécile, ben c'est ça, c'est le rapport entre les très riches et les très pauvres. Alors vous avez la Bretagne, ben vous voyez ce vert là, donc là vous avez 6. Donc entre les revenus des plus pauvres et les revenus des plus riches, il y a un rapport de 6. Là, vous avez dans les trucs qui sont là, 9, 2, ça fait 7 ici. Attendez, je raconte des bêtises. Non, je dis une bêtise là. Là, le ratio, c'est le vert, c'est le plus faible. Le rouge, c'est le plus fort. Donc les inégalités fortes sont en rouge, les inégalités faibles sont en vert. Hein? Voilà. Ben le voilà, le coefficient de Gini, hein, que j'évoquais. Hein. Et donc là, alors le coefficient de Gini, donc c'est aussi une formule avec le ratio entre le premier décile et le dernier décile. Ça va de 0,12 à 0,34. La France, c'est de l'ordre de 0,30 au niveau global. Et par exemple, l'Allemagne, c'est 0,4, l'Angleterre, c'est 0,5. Enfin, la France est le pays le plus égalitaire d'Europe. On nous raconte le contraire du matin jusqu'au soir dans tous les médias. Je ne dis pas que c'est normal, qu'on ne pourrait pas faire mieux, mais faut arrêter de raconter des bêtises. Alors, une gauche figée. Maintenant, on va faire l'analyse des résultats électoraux. Hein ? Donc, c'est absolument sidérant. Royal au premier tour en 2007. Royal au second tour en 2007. Hollande au premier tour en 2013. En 2012. Hollande au second tour en 2012. C'est pas parce qu'ils étaient en couple que ça a dû jouer. Mais c'est quand même troublant. C'est-à-dire que c'est même pas la peine de faire voter les gens, puisque on connaît le résultat avant d'avoir fait le vote. La preuve. Et c'est quand même spectaculaire. Et je rappelle que, au moins le Sud-Ouest, vote à gauche, a voté à gauche, votera toujours, toujours à gauche. Parce que c'est la famille souche, quels que soient les gens qui se présentent à l'élection. L'effet de la taille des villes et des villages, alors là, c'est un peu difficile à interpréter, il faut rentrer dans le texte, c'est que l'élément nouveau de la cartographie, c'est que beaucoup de gens sont venus dans les villes ou dans la périphérie des villes. Ce qui fait que l'aspect cartographique des résultats des votes, si on ne l'élargit pas à des grandes zones, on n'y comprend rien. D'ailleurs, la preuve, ça fait une mosaïque absolument indébrouillable. Voilà. Mais quand même, on devine toujours cette grande tâche, disons, du Sud-Ouest. Alors, un truc intéressant, Mélenchon et Hollande. Eh bien, la répartition géographique des votes est complètement différente, pour des raisons familiales, exactement. Donc là, on retrouve le Grand Sud-Ouest, hein, et là, pas facile d'interpréter, mais vous voyez que c'est complètement différent. Hein ? Les derniers communistes. Alors je cite toujours cet exemple-là, c'est celui-là, c'est l'Allier. L'Allier, qui n'a jamais vu une seule usine depuis que l'Allier existe, vote communiste encore à 20% dans certains villages, aujourd'hui. C'est la famille communautaire. Je reviens toujours à la même chose. Donc voilà une démonstration. Voilà. Et vous voyez ce que je suis en train de dire. Alors là, voyez, le rond-point Jeanne Rose, il est là. Et l'ethnie qui est là-dessous, c'est des familles communautaires. Par contre, le Morvan, non. Là, il y a un trou, là. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la banane. Ce machin bizarre qui n'existe qu'en France. Alors, l'histoire des immigrés. Alors on dit, oui, c'est parce qu'il y a l'immigration, machin, le Front National et tout et tout. Ben, il faut acheter le bouquin, puis vous regarderez dans le détail. D'abord, la répartition géographique des immigrés varie peu au cours du temps. Et puis, la corrélation avec le vote Front National, pour faire court, elle est nulle. Je rappelle quand même ici qu'on a un exemple célèbre à proximité, c'est Saint-Andreuil. Il doit y avoir 70 ou 80 votants. Il y a 60 votants Front National à Saint-Andreuil. On vient les interviewer, les gens. Mais pourquoi vous votez Front National ? Mais vous voyez ce qu'on voit à la télé ? Il y a les gens vont venir comme les détrousseurs, ils vont venir nous attaquer. Mais vous avez déjà. Ah ben non, mais on a vu à Chalon. On vote Front National parce que en votant Front National, il n'y aura plus d'immigrés. Comment ? Bon, ben, si vous le savez, je vous fais confiance, mais c'est pas. Oui, mais d'accord, mais à Saint-Andreuil, c'est pas mal non plus. Oui, d'accord, bon. À Saint-Andreuil ? Ah, d'accord, ben, excusez-moi, je me suis trompé. Merci de faire la. Enfin, si vous voulez, dans le vote Front National, il y a beaucoup de fantasmes, si vous voulez, qui sont véhiculés. Les bastions de l'extrême droite. Alors, comment on peut lire cette carte-là ? C'est en noir, c'est les plus anciens bastions. Et en rouge, c'est les nouveaux bastions, on va dire. Alors là aussi, on voit. Alors là, c'est complexe parce que le système familial ici. Et ici, c'est pas le même. Donc la théorie qui fait une corrélation entre le système familial et le vote Front National, là, elle est un peu en défaut. Vote Le Pen en 95. Gain et perte Marine Le Pen en 2012. Alors les gains, c'est en rouge, et les pertes, c'est en bleu. C'est-à-dire que les bastions traditionnels ont voté moins pour Marine et les nouveaux non impactés par, enfin non significativement votants pour Marine ont voté plus. Marine Le Pen en 2012, donc vous voyez que les zones traditionnelles s'étendent. Là, je rappelle, cette bande-là, là, c'est Agen. Hein. Vous avez vu tout à l'heure dans une carte, il y avait le chômage des jeunes. Parce que dans le duopole Bordeaux-Toulouse, c'est deux aspirateurs énormes, mais au milieu de tout ça, il n'y a rien. Hein. Et donc, les gens, s'ils ne veulent pas se déplacer, ils ont du mal. Hein. Voilà. Alors, il y en a beaucoup plus. Hein. J'ai fait une sélection un petit peu arbitraire, mais c'est... Donc, je vous encourage à acheter celui-là. Hervé Lebras et Emmanuel Todd. Hervé Lebras, c'est le démographe. C'est lui qui faisait marcher les ordinateurs, quand même. Et Emmanuel Todd, c'est l'historien. Donc, c'est son dernier livre, là, que j'ai lu. Donc, Où en sommes-nous ? Une esquisse de l'histoire humaine. Et donc, il repart du néolithique jusqu'à la période actuelle. Et il fait une analyse de ce qu'il en pense. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous achetez le bouquin. Voilà, j'ai mis la référence. Et c'est dans ce bouquin-là qu'il introduit cette nouvelle notion de stratification éducative entre les éduqués supérieurs et les éduqués moins supérieurs. Et donc, il y a une incompréhension de la France d'en haut, la France d'en bas, enfin, on peut le dire de 25 manières différentes, mais on ne peut pas nier qu'il puisse y avoir une perception de ce type-là. Alors donc, dans le post-scriptum, oui, il y a une préfiguration des gilets jaunes, là on aura peut-être un peu de temps, je pourrais vous lire une ou deux pages. Actuellement, il y a un géographe qui est devenu un peu célèbre, c'est Christophe Guillouis. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui, donc depuis une dizaine d'années, et il a fait des livres qui s'appellent « La France périphérique », en disant « les gens qui votent Front National, ils sont dans la grande banlieue, ils sont oubliés de tout, patati patati patata ». Et donc, comme ça a bien accroché les premiers bouquins, maintenant il en fait sortir un tous les deux ans, puis il en met une couche. Et donc, il est contesté lui aussi. Il y a une part de vrai dans ce qu'il raconte, mais c'est un peu caricatural. Alors, on va parler un petit peu, parce qu'il faut essayer d'équilibrer, hein. Emmanuel Todd est critiqué depuis qu'il fait ses présentations et ses ouvrages. Pourquoi il est critiqué ? D'abord parce que, au niveau... J'ai essayé de le faire venir, là, mais c'est pas un bon conférencier. Il dit, de toute façon, c'est moi qui ai raison, et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez sortir. Enfin, je caricature à peine. Donc, il est assez agaçant. Mais écoutez-le sur YouTube, hein. Il est rejeté par les universitaires. Alors ça, c'est le défaut habituel des universitaires. Mais monsieur Todd, vous êtes historien. Vous n'avez pas le droit, je pèse mes mots, de faire de l'anthropologie ou de la sociologie, puisque vous êtes historien. Vous n'avez une formation ni en sociologie, ni en anthropologie. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Ça a été écrit par des universitaires, ça. Lui, il a dit, j'en ai rien à secouer, c'est pas... Voilà. Il ignore la lutte des classes. Alors, je rappelle que dans cette rubrique historique, il y a une école marxiste qui est toujours très puissante dans l'université, qui dit, il n'y a qu'une seule clé d'interprétation de la société, c'est la lutte des classes, c'est le concept de Marx. Donc ils disent tout ça c'est vachement trop réducteur et ce que je propose ici c'est quelque chose de beaucoup plus analytique et qui correspond à quelque chose de réel puisqu'il a démontré mathématiquement que la corrélation entre la taille de la classe ouvrière et les systèmes communistes était nulle sinon négative. Alors, la plus grosse critique, et là je suis un peu d'accord avec ce qui est dit là, c'est qu'il mélange l'analyse scientifique avec l'idéologie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas s'en empêcher, à un moment ou un autre, il glisse un petit peu ses idées personnelles dans son analyse. Et on le voit bien en écoutant ses conférences. Je cite deux thèmes, je les ai déjà dit, l'euro et l'Union européenne. Donc sur l'Union européenne, il dit de toute façon avec les systèmes familiaux on ne se ressemble pas et ça ne marchera jamais et on ne pourra jamais se mettre d'accord avec les Allemands puisqu'ils sont deux systèmes complètement différents. Et puis l'euro, ben, ça ne peut pas marcher parce que, alors là c'est l'argument des souverainistes, on ne peut pas manipuler notre monnaie. Donc l'euro, ça nous a empêché de manipuler notre monnaie. Alors lui, il pense, comme le pense Mélenchon, il suffit de manipuler notre monnaie pour que tous les problèmes vont être résolus. Si c'était simple, ça se saurait. Il y en a qui manipulent leur monnaie, et ça s'appelle le Venezuela ou le Zimbabwe, où il y a 1 000 000% d'inflation par an. Hein, et il n'y a plus rien dans les supermarchés. Monsieur Mélenchon, qui est pour la révolution bolivarienne, ben, il n'a qu'à émigrer au Venezuela. Hein. Là, je fais de l'idéologie, donc je ne devrais pas le faire. Bon. Provocateur et arrogant selon certains, j'ai mis selon certains pour adoucir un peu la phrase, mais c'est vrai qu'il est un peu agaçant. Hein. Et alors surtout, ben ça c'est l'école marxiste, son déterminisme anthropologique désespère les démocrates. Puisque qu'est-ce qu'il y a derrière l'idée de démocratie? C'est que la démocratie, donc le vote, c'est un phénomène rationnel. Donc, je présente les programmes, le programme A, le programme B, le programme C, le programme D. C'est le programme C qui me plaît le mieux, je vote pour le programme C. Donc, il suffit qu'il y ait un bon programme pour que, massivement, l'ensemble de la population vote pour ce bon programme. Tous les résultats expérimentaux que je vous ai montrés d'une façon synthétique disent le contraire. Les gens votent toujours pour l'étiquette pour laquelle ils ont toujours voté. Donc, dans les ressorts de du vote, hein, je ne parle pas de la démocratie représentative, simplement le vote, tout le monde le sait bien, les facteurs émotionnels, sentimentaux, ça il a une bonne tête, il me plaît bien, oui celui-là je ne peux pas le voir donc je ne vote pas pour lui, etc. Donc il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas directement rationnels dans le choix et qui rentrent en ligne de compte. Alors je vais arriver à la conclusion, hein, puis après je vous laisserai un petit peu poser quelques questions. La France, c'est un pays extraordinaire, unique au monde. Il est tellement unique au monde que c'est le seul pays du monde, sur les 200 pays qu'il y a dans le monde, où il y a les 4 types de familles dans le même pays. C'est le seul. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y en a qu'un. Donc, conclusion, et ça avait été repris par Michel Rocard dans plusieurs de ses ouvrages, génétiquement, le mot est inadapté, sociologiquement, on ne peut pas avoir de consensus, donc le pays est ingouvernable. Pour des raisons familiales, ethnologiques. Non, mais la démonstration est assez convaincante, de mon point de vue. Mais vous pouvez ne pas être d'accord. Hein. Malgré cela, alors c'est ça qui est le paradoxe, malgré cela, il y a une stabilité géographique des votes, qui fait que ça ne part pas dans le sauf aux extrêmes. Et puis le résultat final de toutes les élections présidentielles, ce sera toujours, toujours, toujours 48-52, comme on l'a constaté, sauf quand il y a Marine Le Pen qui est là, bon alors donc il y a l'effet rejet de l'extrême, mais enfin ça va peut-être pas durer l'âge d'un vieux chien. Hein, donc voilà. Donc ça, c'est clair. Et ça peut s'expliquer par ces analyses. Et donc, finalement, la classe politique, elle est finalement très contente de ça, puisqu'elle dit, c'est ce qu'on disait sous la Troisième République, on ne le dit plus maintenant parce que ça fâche les gens, mais chacun son tour. Chacun son tour. Ça, je l'ai entendu, je fréquente un peu le milieu politique, ils sont tous pareils. C'est chacun son tour. Bon, tu as le pouvoir, bon, ben voilà, tu te vautres dans la main, et puis après, tu es. Chacun son tour. Et le rejet de la population contre les politiques, c'est parce que les gens ne sont pas plus idiots que ça, ils comprennent bien ça. Hein. Donc c'est une véritable difficulté. Hein. Voilà, je vous remercie. Vous avez le droit de poser des questions. Oui. Oui, alors, il l'intègre indirectement, puisque dans son... Alors, je reviens en arrière. Il l'intègre par le fait, alors je n'ai pas les éléments graphiques pour le montrer, que ce bouquin-là, il en a fait 3 éditions. Et je prends l'exemple typique de Toulouse, que je connais un peu mieux. Donc, entre le Toulouse des années 1985 et le Toulouse de 2013, je peux dire que Toulouse, ça a beaucoup changé. Et quand on fait une analyse là-dessus, d'ailleurs, il le dit lui-même dans son texte, il dit « j'en reviens pas, je suis complètement abasourdi ». Normalement, la mobilité, ça devrait se traduire par une modification de la cartographie des votes. Je vais tourner les ordinateurs, c'est tout le temps pareil. Donc, il dit, je ne comprends pas. Il a une thèse, mais enfin, qui est un peu tirée par les cheveux, qui dit, c'est ce qu'il appelle le catholicisme zombie, mais là, il faudrait rentrer dans le détail de ces analyses, c'est que les gens qui arrivent dans la région où ils n'ont pas du tout la même sensibilité que cette région-là, ils finissent par être influencés, pour ne pas dire intoxiqués, par l'opinion dominante de l'environnement. C'est ce qui... Ben il dit, je n'ai pas d'autre explication. Oui. Oui, mais enfin, j'ai pas la réponse à la question là parce que ce sera un niveau d'un. De mémoire, non. Il faudrait faire un truc sur une région plus. Ah, je pense qu'il a les éléments dans les travaux qu'il a fait, mais disons, c'est pas restitué de mémoire dans ces trucs-là. Il a, oui. Ben oui, ben c'est le reproche qu'on lui fait. C'est le reproche qu'on lui fait. C'est de dire. Oui. Oui, mais la religion, et lui, il faut lire tous les bouquins, il explique le fait qu'il y ait une certaine évolution des religions au cours du temps, depuis le XVIIe siècle, par le fait du tréfonds familial. Pourquoi le catholicisme a fini par s'effondrer dès le milieu du XVIIIe siècle, oui, milieu du XVIIIe siècle, alors que le protestantisme ne s'est pas effondré. Et il y a eu le même phénomène dans le protestantisme à la fin du XIXe. Donc ça, il faut liser les bouquins. Ça, c'est vrai que la seule chose qui est un peu... troublante, c'est que on part de la conclusion puis on va aux analyses quoi. C'est ça, mais je peux vous dire que beaucoup d'hommes politiques de haut niveau ont dit finalement j'ai bien tout regardé et je suis assez convaincu par ces analyses, alors qu'il est il dit moi ça me désespère parce que c'est pas moi, ce qui sort des élections, c'est pas ce que je voudrais qu'il sorte moi à titre individuel. Lui, il vote pour Mélenchon. Hein, il ne le cache pas, d'ailleurs. Oui. Oui. Non, ce qu'il dit implicitement, enfin je dis ça de mémoire, hein, parce qu'il faudrait se replonger dans les bouquins, il dit, ça n'a pas d'influence, toutes les catégories bougent en même temps, quoi. C'est-à-dire que les répartitions entre les différentes... Contre, ouais. Oui. Oui, non, mais là, justement, ça, c'est pas 50, c'était 33-66. Donc c'est pas ce que j'ai dit, là, les 58, les 48-52. Mais par contre, regarde les deux élections précédentes, c'était ric-rac. Quand il y a eu Le Pen également contre Chirac, c'était 80. Là. Donc là, il y a un effet de rejet de l'épouvantail. Bon, ça, c'est. Effectivement, c'est pas. Parce que là, il l'a fait. Alors, par contre, il analyse beaucoup le vote Front National et il dit. Alors, il l'a fait famille socio-professionnelle par socio-professionnelle en tenant compte justement de l'augmentation des abstentions. Dans toute... Il n'y a aucune catégorie socio-professionnelle où le vote Front National est majoritaire. Aucune. Si on, en tenant compte des abstentions, si on compte que les bulletins réels, les ouvriers sont légèrement au-dessus de 50%. Donc il dit, il y a quand même encore en France, pour des raisons sociologiques, refus, on a vu la famille, refus d'un pouvoir fort. Mais quand vous regardez les sondages, il y a un socle de 30% de gens qui sont contre la démocratie et qui veulent un pouvoir fort. Donc, ben voilà. Oui. Quelqu'un. Je rappelle quand même, je vais faire la comparaison avec le système anglais. Vous savez que le système anglais, c'est un système uninominal, mais à un tour. Donc là, l'histoire de dire, ben, je vais choisir, au premier tour, j'élimine, et au deuxième tour, je choisis. Nous, on est, ben oui, c'est pour... hein. Et après on dit, ah ben c'est pas normal parce qu'il ne représente que 10% des gens. Ah ben oui, mais c'est notre système. Donc, alors, essayez de proposer à tous nos politiciens de dire, ben on va vous élire au scrutin un seul tour, ah vous allez voir, là ça va être la révolution. Hein. Ils vont dire, non, non, surtout pas. Hein. Surtout pas. Faut bien, faut pas casser le business. Hein. Voilà. Je vous dis encore une fois, lisez, achetez ces bouquins. Alors, il y a deux niveaux de bouquins. Il y a des bouquins qui sont des monographies, je vous dis, indigestes et illisibles, hein, qui sont des bouquins de référence. Hein, et puis des bouquins, on va dire, grand public. Bon, ma foi, voilà, vous en pensez ce que vous en voulez, mais enfin, c'est lisible. Hein. Comment ? Oui, oui, toutes les cartes viennent de l'INSEE. Et en particulier, une chose qu'on lui dit, parce que j'ai évoqué le problème des départements, parce qu'il faut bien simplifier. Alors, vous avez vu que certaines cartes, les nuages empiètent sur les départements. Donc, dans un de ces ouvrages, je ne sais plus lequel, il y a une annexe mathématique qui explique comment il fait un Moyen-Âge sur un cercle qui fait 20 km et qui déplace tous les 20 km et il remoyenne par rapport au calcul qu'il a fait le coup d'avant pour essayer de lisser un petit peu les ruptures. Hein. Et donc ça, c'est la mathématique. Donc tout ça, c'est dans les ordinateurs. Et donc je rappelle qu'il a eu la chance et d'être à l'INED et d'avoir des gens qui étaient là. Alors, dans la secte des gens qui lui crachent dessus, c'est des collègues de l'INED. Parce que les gens de l'INED, et en particulier les polytechniciens, il ne peut pas s'empêcher, dans une de ses conférences, il dit « Ouais, des polytechniciens qui sont fufutes, vous en avez déjà rencontré ?» Bon, donc il balance un fion à chaque fois. Alors, et le thème, c'est « D'abord, toi, tu n'as pas fait des études de mathématiques et de statistiques, alors tais-toi dans ta niche Médor. Hein, » Deuxièmement, c'est pas à l'INED de faire des études socio-anthropologiques. On donne des cartes et puis basta, après d'autres les interpréteront. C'est toujours l'idée de la segmentation académique de notre système qui a été inventée par M. Napoléon, une fois de plus, où on a séparé les disciplines. On est contre le système multidisciplinaire. Hein ? Oui ? Oui. Non, il l'a. Non, il l'a pas dit comme ça. Il a dit Il dit l'inverse un petit peu. C'est-à-dire, il fait pas de jugement sur le niveau. Moyen des gens, parce que, bon, là c'est un autre sujet, et il dit simplement que la massification de l'enseignement a créé cette couche supérieure, même si elle est hétérogène, qui a passé le bac et qui a un diplôme de quelque sorte que ce soit. Et une fois que les gens, par exemple en France, il y a un système socio-professionnel, il y a des cadres. Vous savez ce que c'est que des cadres ? Vous êtes bien placé pour le savoir. Eh bien, des cadres, c'est on est le seul pays au monde où cette catégorie existe. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire, un cadre, à l'étranger. Bon, vous êtes ingénieur, vous êtes professeur d'université. Un cadre, oui, c'est un cadre. Le fait même qu'on dise un cadre, c'est une indication subliminale qu'on accepte et qu'on légitime ce système de la caste supérieure qui est intelligente et diplômée et qui sait tout, qui comprend tout, dont je fais partie d'ailleurs, hélas, ou tant mieux. Oui. Oui. Oui, mais si. Oui, mais non, mais. Si. Oui. Non, mais je rebondis un peu sur ce qu'il dit, si vous voulez, c'est que cette fameuse courbe de prélèvement faite par différents moyens, elle est méconnue du public, et en particulier des gilets jaunes. Donc il suffit simplement qu'il y ait une des lignes multiples qui n'est pas forcément la plus forte. Tout d'un coup, pouf, il y a 20% de plus, pouf, ça met le feu, ça met l'étincelle au système. On ne réagit pas dans l'absolu, on réagit en différentiel. C'est bien ça, on l'avait tous vu, c'est bien ça qui a déclenché le phénomène. Hein. Donc, voilà. Et dans tous les discours des contestataires, là, c'est on n'en peut plus, on a le pouvoir d'achat et tout. Mais surtout, on veut flinguer les riches. C'est le tréfonds de cette chose-là, c'est en ce sens que l'essence égalitaire au sens philosophique du terme est très forte dans... Oui, non, mais on est ok, mais bon, voilà. Mais oui, c'est. Et vous voyez que la communication n'est pas facile. Hein. Oui. 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 Mais oui, mais je vous dis, c'est pénaliser les riches. C'est pas tellement d'avoir plus, mais c'est que les autres aient moins. Voilà. Ben oui, mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais M. Mélenchon est très riche. Monsieur, c'est connu, c'est de notoriété publique. Oui, mais d'accord. Bon. Enfin, on s'en est rendu compte. Ben, d'ailleurs, si le fait qu'on ait tant de révolutions, disons sur deux siècles, c'est aussi. Il y a des indices très forts dans ce que je viens de vous dire. Oui, mais pas économiquement, sociologiquement. C'est-à-dire, ce que vous me disiez l'autre jour, le mépris des cadres, les fameux cadres dont on parle pour... oui, le mépris mutuel. Je vais vous faire une petite lecture là, de deux pages, là. Donc le post-scriptum qui s'appelle « L'avenir de la démocratie libérale ». Reste que, dans les trois cas, je les appelle le début, là, l'analyse des résultats électoraux révèle la même prédominance du niveau éducatif dans la détermination du vote. Partout, conformément à la représentation de l'histoire proposée dans ce livre, l'éducation supérieure a brisé l'homogénéité culturelle des démocraties libérales et créé des mondes d'en haut attachés aux valeurs d'ouverture et des mondes d'en bas qui revendiquent le droit d'une nation à contrôler ses frontières et à considérer l'intérêt de ses citoyens comme prioritaire. Dans chacun des trois cas, Academia, je vous ai expliqué ce que c'était, représente le cœur du monde universaliste et libéral, enragé contre le Brexit en Angleterre, contre Trump aux États-Unis, contre le Front National en France, signant et publiant pétitions et injonctions, destinées à leurs enseignants, à leurs étudiants et aux citoyens mal informés. Le monde de l'entreprise, généralement globaliste, fut en général, sauf peut-être en France, plus attentiste. Le chercheur est ici si proche de son propre univers de référence, il parle de lui, hein, Academia, qu'une prudence renouvelée s'impose et que le précepte weberien de neutralité doit être, une fois de plus, rappelé au lecteur et surtout à lui-même. Donc il dit, moi je fais partie d'Academia, donc mon avis est biaisé. Hein. Il s'agit bien ici, non de juger, mais de comprendre et d'essayer d'entrevoir les orientations que prend le monde, attitude intellectuelle qui n'exclut d'ailleurs pas l'usage du droit à l'ironie. Ça, il est équipé pour ça. Une précision d'ordre sociologique s'impose. L'identification de la stratification éducative comme cause du clivage idéologique nous permet d'affirmer que le problème est d'ordre structurel et en un sens indépassable. L'alphabétisation universelle, base de la démocratie moderne, est, quoi qu'en disent certains déclinistes, j'ai perdu la ligne, toujours en place. Mais il s'y est superposé une division de la société en ordre méritocratique, primaire, secondaire et supérieur. L'ordre supérieur est lui-même finement gradué par des niveaux de prestige des différents diplômes et titres universitaires. La sélection méritocratique ne peut, en effet, fonctionner sans la base d'alphabétisation dont est extrait l'ordre des supérieurs. Les sociétés avancées doivent donc vivre sous tension. L'éducation primaire universelle nourrit inlassablement la possibilité de la démocratie. L'éducation supérieure approvisionne non moins inlassablement une classe supérieure qui, parce qu'elle est sélectionnée par le mérite, se pense intellectuellement et moralement supérieure en droit. Cette supériorité est une illusion collective. L'homogénéité et le conformisme engendrés par le mécanisme de sélection produisent le paradoxe ultime d'un monde d'en haut, sujet au repliement intellectuel, faiblement apte à la pensée individuelle. C'est ainsi qu'en un sens sociologique, on peut dire que le monde d'en haut est idiot et peu moral. Mais comme le peuple primaire, cette élite de masse est en place pour durer, certes, elle s'efforce de préserver ses propres enfants de la compétition scolaire par divers mécanismes et tente elle-même de miner le principe méritocratique, parce que la réussite scolaire ne mène finalement d'un point de vue systémique qu'à l'argent. La méritocratie vit sous la menace permanente de la fermeture plutocratique. Mais Academia, la machine à trier les hommes, est elle-même riche et solide, et elle semble capable de reproduire pour de nombreuses années encore notre société d'ordre, au premier rang desquelles cette élite de masse empêtrée dans ses difficultés intellectuelles. Le bon sens nous indique qu'aucun choix brutal ne saurait résoudre la contradiction entre l'égalitarisme qui résulte de l'instruction primaire et l'inégalitarisme qui découle de l'enseignement supérieur. Et que les sociétés avancées, si elles veulent rester cohérentes et viables, doivent définir une voie moyenne. Bref, il nous faut parvenir à concilier les valeurs des gens d'en bas et celles des gens d'en haut, la sécurité des peuples et l'ouverture au monde. Parce qu'une démocratie ne peut fonctionner sans peuple, la dénonciation du populisme est absurde. Parce qu'une démocratie ne peut fonctionner sans élite, qui représente et guide, la dénonciation des élites en tant que telle est tout aussi absurde. L'obstination dans l'affrontement populisme-élitisme, s'il devait se prolonger, ne saurait mener qu'à la désagrégation sociale. Rappelons que dans chacun des trois pays concernés, le peuple et les élites parlent la même langue, l'anglais ou le français. L'exogamie rend les strates sociales poreuses. Vous savez ce que c'est que l'exogamie ? L'exogamie, c'est on se marie en dehors du milieu familial et le plus loin possible de... Mais ça, c'est la tradition, on va dire, européenne depuis très longtemps. Et donc, ça a une influence aussi sur la stabilité des systèmes familiaux. J'en ai pas parlé, mais bon, on ne peut pas parler de tout. Alors, j'ai perdu l'exogamie. Là. L'exogamie rend les strates sociales poreuses. Mais effectivement, un gars du bas peut se marier avec une dame du haut ou vice-versa. Chose qui est impossible dans certains autres systèmes. Une hypothèse qui ferait des éduqués supérieurs une variété raciale en cours de séparation de l'espèce Homo sapiens tombe, du point de vue de la vraisemblance, au-dessous de la machine à explorer le temps de Wells. Nous pouvons maintenant avancer dans la compréhension du dilemme qui frappe la démocratie libérale si nous faisons l'effort de comparer les destins, pour l'instant divergents, des trois pays fondateurs. Trois niveaux de négociation entre peuple et élite sont déjà décelables. La France définit un niveau de négociation zéro. L'aspiration populiste à la redéfinition d'une nation protectrice y était mieux que contenue, refoulée. Le Front National constitue toujours, pour les deux tiers des électeurs, un tabou. Au deuxième tour de l'élection présidentielle de mai 2017, le choix de l'extrême droite est demeuré minoritaire dans tous les groupes d'éducation, de revenus, d'âge, de métier, à l'exception des ouvriers. Mais l'introduction dans le décompte des bulletins blancs et des abstentionnistes, tu vois, j'avais bien mémorisé quand même. Aurait révélé un Front National minoritaire aussi chez les ouvriers. L'horizon de la société française, violemment polarisée sur un mode asymétrique, reste donc l'ouverture, une autodissolution dans l'Europe et dans le libre-échange. Un tiers de sa population pourrie économiquement et moralement et en rage de son impuissance inlassablement reconduite. Les États-Unis sont engagés dans une négociation entre peuple et élite de niveau intermédiaire qui a, au moment où j'écris, conduit à la société américaine à un état où l'on pourrait qualifier de schizophrénie dynamique. Donald Trump a été élu avec un nombre de suffrages légèrement inférieur à celui obtenu par Hillary Clinton. Le système électoral américain, qui lui donnait la majorité des grands électeurs, lui a cependant permis d'être désigné. Mais tout le monde ne reconnaît pas la légitimité de la bête noire de l'establishment, l'Amérique d'en haut. Celle des bien diplômés de la Silicon Valley et des journalistes en place n'a pas désarmé. Elle est engagée contre le nouveau président, ce que beaucoup considèrent comme une guerre civile froide, l'existence de nombreux contre-pouvoirs, et notamment un système judiciaire indépendant, a conduit à l'installation d'une guerre de tranchées. Contentons-nous de considérer à ce stade l'issue du conflit comme incertaine, mais gardons à l'esprit que l'analyse en termes éducatifs signifie que le choix réel pour l'Amérique n'est pas entre Trump et l'establishment, mais entre négociation et désintégration. L'hypothèse d'une victoire totale de Trump est impensable, celle d'un retour du triomphalisme globaliste également. Au Royaume-Uni, la négociation entre le peuple et les élites semble avoir abouti assez rapidement à un résultat impensable en France et aux États-Unis, un accord. Le Brexit aussi fut voté par les moins éduqués. La rage des universitaires et des journalistes de l'establishment de centre-gauche fut et reste outre-Manche d'une intensité qui n'a rien à envier à celle des anti-Trumpistes d'outre-Atlantique. Mais nous avons eu la surprise d'assister à un spectacle improbable, celui que nous a donné le Parti conservateur qui, dirigé par Theresa May, a accepté le verdict populaire et se préparait à gérer la sortie du Royaume et de l'Union européenne. Alors, bon, c'est écrit à l'automne 2017. Hein, ok. Enfin, c'est pas faux ce qu'il dit. Hein. L'important n'est pas ici de distribuer les bons et les mauvais points démocratiques ou des certificats de xénophobie. Nous devons le rappeler, un important élément de rejet de l'étranger est commun au vote FN, anti-arabe, à l'électorat de Trump, anti-mexicain, et à celui du Brexit, anti-polonais. Anti-polonais. L'essentiel est de comprendre les différences en cours de révélation entre les trajectoires françaises, américaines et britanniques. Cette ultime divergence entre sociétés avancées à l'intérieur même du club étroit des nations qui ont fondé la démocratie moderne est en effet elle-même un paradoxe, puisqu'il ne fait aucun doute que les trois sociétés, la britannique et la moins égalitaire de tempérament, j'ai longuement insisté plus haut sur l'importance en Angleterre d'un véritable sentiment d'inégalité aristocratique associé à une famille souche embryonnaire dans les strates nobles et paysannes du XVIIe siècle, j'ai montré comment aux États-Unis le sentiment racial avait permis, malgré l'indifférence de la famille nucléaire absolue à l'égalité, l'émergence d'un égalitarisme blanc. En France, l'égalitarisme est encore plus profond, puisque les structures familiales du bassin parisien, nucléaire égalitaire, y prédisposent à une vision a priori égalitaire des hommes et des femmes, même si la périphérie souche de l'Hexagone modère cette prédisposition. Paris reste, du point de vue de l'anthropologie des sociétés avancées, la capitale du libéralisme égalitaire. Pourtant, de manière absolument contre-intuitive, ce que nous devons observer est une prise en compte des aspirations populaires d'autant plus facilement réalisée au Royaume-Uni que la société est moins égalitaire de tempérament. Certes, en Angleterre, le mépris académique des chaves, les pecnos, in French, in the text, les chaves, c'est-à-dire pecnos en argot anglais, des chaves, terme intraduisible qui condense lui-même toutes les gracieusetés des termes prolo et plouc en français, est avéré. Mais c'est aussi en Angleterre que l'on trouve déjà les meilleures formulations intellectuelles de la légitimité des aspirations populaires à la sécurité territoriale et sociale. Formulation qui ne rejette pas la légitimité équivalente des aspirations du monde d'en haut à l'ouverture et à la mobilité. Dans Exodus, publié en 2013, mais déjà devenu un classique, Paul Collier, économiste du développement, avait donné une analyse nuancée du phénomène migratoire qui, tout en comprenant fort bien le point de vue des migrants, ne considérait pas comme a priori illégitime le droit des peuples avancés à préserver un certain niveau d'entre-soi et de stabilité culturelle. Plus récemment, en 2017, David Goodhart, fondateur de la revue libérale de gauche Prospect, a exposé dans The Road to Somewhere la nécessité de prendre en compte les aspirations des gens d'en bas. Sa description de la société, très semblable à la nôtre, oppose les anywhere, de n'importe où, ça veut dire de n'importe où, aux somewhere, ceux de quelque part. Et le besoin pour chaque société, et pas seulement le Royaume-Uni, d'une négociation entre les deux visions du monde, il recourt à magnifique expression de populisme décent, qui, loin d'être un oxymore, témoigne une sortie de la pensée binaire, possible, primitive, et pour les démocraties libérales, montre la seule issue possible si elles veulent éviter la fragmentation et la désintégration. La description de Goddard est nuancée, mais son interprétation est la polarisation idéologique. Il place l'émergence du groupe massif des éduqués supérieurs. Nous sommes tous des élèves de Michael Young, mais pourquoi l'Angleterre a-t-il si facilement précédé ses sœurs en démocratie libérale dans la définition d'un nouveau pacte social ? Etc, etc. Bon. Ça vous suffit ? Vous achetez le bouquin pour lire la suite. Mais enfin, vous voyez, en filigrane, il évoque ce qui allait se passer un an après. Voilà. Bon, j'espère que vous avez appris des choses. C'est fait pour ça. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Voilà. C'est pour ça. Comment ? Attendez.